Alors aujourd'hui, je peux faire un petit mot. Nous entendons donc le livre de la Genèse avec l'histoire de Jacob. Alors Jacob, c'est quand même une sacrée figure. Je ne vais pas dire une figure sacrée, mais une sacrée figure. On peut le considérer comme d'autres personnages de l'Ancien Testament, comme un homme selon le cœur de Dieu. En tout cas, moi, je l'avais pris comme figure pour illustrer ce thème à partir donc d'un exemple biblique. Alors, je ne vais pas faire l'intervention que j'avais donnée parce que ça prendrait une heure. Mais évidemment, quand on lit cette histoire-là, si vous voulez y comprendre quelque chose, il faut prendre les chapitres précédents pour voir la conception d'Ésaü et Jacob. De voir comment c'est passé, que ce sont des jumeaux, des faux jumeaux, comme on dit. Donc voilà, c'est important d'avoir tout ça à l'esprit. On découvre donc une arrivée difficile, parce que la naissance est compliquée. Le second, c'est le second. Et tous les seconds des fratries savent que quand ils arrivent, on fait cette expérience que quand ils arrivent, la place est prise. Et il peut y avoir un peu, bon, je vais exagérer le nom, mais le syndrome du second, qui ne sera jamais le premier. Ce dont on se fiche éperdument, parce qu'on est tous les premiers. Mais enfin, dans la psychologie humaine, on devient celui qu'on va comparer. Et donc, c'est assez souvent, ça peut être un poids difficile d'être second. Voilà, bon, moi je ne suis pas concerné, donc je ne sais pas, mais j'ai cru comprendre que c'était assez vrai. Donc il y a une espèce de conquête de la première place, qui peut paraître assez légitime, parce que finalement Ésaü a vendu sa survie pour un plat de lentilles, et il a vendu son droit d'aînesse. Donc on pourrait dire que Jacob, en fait, va récolter ce qui lui revenait, puisque son frère le lui avait donné. Malgré tout, il y a un certain nombre de mensonges, de malhonnêtetés. On constate chez Jacob une grande proximité avec sa mère et pas trop avec son père, c'est ce que le texte dit. Isaac aimait Ésaü parce qu'il aimait la chasse et qu'il lui apportait des bonnes choses, tandis que Jacob était un petit bonhomme moins intéressant. Donc c'est effectivement difficile. Donc c'est le second venu qui va l'emporter. Évidemment, ça nous parle pour nous originellement païens, puisque nous ne sommes pas juifs, nous sommes ceux qui sommes arrivés après. Le fils aîné, c'est le peuple juif, et nous sommes les puis nés, et nous prenons la première place, dans le sens où nous entrons dans la nouvelle alliance. Voilà, la plénitude de la connaissance de Dieu, alors que les Juifs ont encore les Hébreux ont encore un voile sur le visage, comme le dit Saint Paul dans les Épîtres, dans une Épître. Donc voilà, on verra ensuite la bénédiction qui est volée, mais qui est normale. On s'étonne que Isaac et pu croire que c'était pas la bonne, et pu entendre que c'était pas la voix d'Ésaü, mais pu quand même faire la chose. Comment il a fait pour ne pas comprendre la supercherie, etc., etc. Donc saint Augustin, sur ce passage-là notamment, dira non mendacium sed mysterium. Ce n'est pas un mensonge, mais un mystère. Bon, c'est ce qu'on appelle beauté en touche. C'est assez habile. Voilà, en tout cas, cette histoire de Jacob est tout à fait intéressante. Elle nous parle de chacun de nous, elle nous montre comment Dieu, malgré toutes nos magouilles, s'insère dans notre vie, tout en sachant que nous magouillons. Et ce n'est pas pour autant malhonnête, le Seigneur nous prend comme nous sommes. Et là, nous avons une figure de la miséricorde de Dieu qui devrait nous bouleverser. Un jour, ça peut nous bouleverser et se dire « Mais enfin, Seigneur, En fait, tu savais que j'allais mal faire et pourtant tu es resté là. Tu m'as accompagné. Tu n'as pas tenu compte de mes erreurs, de mes méchancetés, de mes effronteries, que sais-je. Me vient à l'esprit évidemment cette histoire sur Saint Philippe Néri, dont on dit que quand il se réveillait le matin, il regardait le crucifix et avec le doigt, il pointait son doigt vers Jésus et lui disait: Seigneur, méfie-toi de Philippe. Vous voyez, on a cette idée de cette lucidité de quelqu'un qui sait qu'il est fourbe. Nous sommes fourbes du fait du péché originel et Dieu sait mieux que nous que le péché originel, comme le dira saint Paul, nous fait faire des choses que nous ne voudrions pas faire. Et alors que ce que nous voudrions faire, on a bien du mal. Ce matin, dans l'oraison pour la Vierge Marie, c'était chez les cisterciennes, c'était premier samedi du mois, c'était l'office de la Vierge Marie, et on disait: puisque nos actes ne sont même pas droits, quoi, ne peuvent pas nous obtenir quoi que ce soit, eh bien que l'intercession de la Vierge Marie nous obtienne le salut. Voilà, donc cette Vierge Marie qu'on peut évidemment contempler, me vient encore à l'esprit cette phrase de Bernanos qui est bouleversante. Je vais tâcher de travailler un peu le sujet. Plus jeune que le péché. Marie, plus jeune que le péché. Ça en dit très très long tout ça. Hein. Bon voilà, en tout cas voilà pour le livre de la Genèse. Avec donc le Seigneur qui encore une fois se mêle à notre vie, c'était quelque chose que j'ai déjà évoqué, sans tenir compte de toutes nos lâchetés, nos faiblesses, nos fourberies. Et là, on peut se dire, mon petit bonhomme, toi qui reproches tellement facilement à tout le monde de ne pas faire ce qu'il faut, est-ce que tu as réalisé que Dieu n'en tient aucun compte pour toi? Et ça doit quand même nous faire tressaillir et nous faire dire: bon, bah, dorénavant, je vais dire le Notre Père pour de bon, quoi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Puisque tu pardonnes nos offenses, je ne peux plus rien retenir à l'encontre de mon prochain. C'est juste malhonnête de retenir. C'est incohérent et malhonnête. Bon, vous avez là-dessus l'illustration du débiteur insolvable, hein. Celui qui devait 200 millions, 200 000 années de salaire. Si vous faites le calcul avec les 60 millions de pièces d'argent, 200 000 années de salaire, je vais te rembourser. Ouais, bah commence tout de suite, hein. Voilà, je referme la parenthèse. Donc on arrive dans le Nouveau Testament où il est reproché aux disciples de ne pas jeûner. Ah, vous ne faites pas ce qu'il faut. Alors, c'est un assez bon pont avec l'histoire de Jacob, parce que Jacob, il a franchement pas fait ce qu'il fallait. Mais apparemment, ça n'a pas dérangé le bon Dieu. Ça ne dérange que les êtres humains. Et là, Jésus nous dit, il y a un moment pour jeûner. Et en fait, le jeûne, alors, ce que j'ai remarqué, moi, on pourrait dire plein de choses, hein, évidemment. On découvre que le jeûne, c'est un deuil. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Réponse, les invités de la place pourraient-ils donc être en deuil? Il n'a pas dit en jeûne, mais en deuil. Donc le jeûne, c'est une forme de deuil, c'est-à-dire que ça célèbre une absence. Le jeûne, c'est la célébration d'une privation en vue de rendre présent celui qui est absent, c'est-à-dire de faire un trou en nous, de faire un creux pour que la présence de l'absent redevienne présence, précisément. Et au fond, ce qu'on apprend ici, c'est que la vie fait exploser la mort. C'est exactement ce que Jésus dit, finalement. On peut pas décemment jeûner quand il y a l'époux, quoi. Ah oui, mais c'est les rubriques. Ouais, bah les rubriques, elles passent après la vie. La vie, il n'y a pas de rubrique. J'ai jamais vu d'accouchement, mais j'imagine qu'il n'y en a pas deux pareils. D'abord parce que c'est jamais le même enfant, ni la même mère. Encore que ça peut être la même mère s'il y en a plusieurs, mais voilà, chaque chose est unique et il n'y a pas de rubrique. Et petite digression, c'est un peu le signe de notre décadence du droit en France aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de lois. On veut tout régler, alors que c'est absolument impossible. On devrait s'arrêter en se disant: hé, ça va. on ne peut pas tout régler. Un être humain, ce n'est pas une machine. Bon, fin de digression. Donc, Jésus éclaire ça par la parabole du vin nouveau, du vieux vêtement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut plus raccommoder. Il y a un moment où on ne peut plus se servir des vieilles choses. C'est pas grave, c'est ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit, c'est pas grave. Il y a un moment où il faut changer. On ne peut plus garder. Donc ça, je dis ça pour tous ces gens qui sont inquiets de voir les évolutions, mais on nous change les choses. Bon, on a un symbole très très fort avec la liturgie de Saint-Pie V. On a des gens qui s'y rattachent pour de très très bonnes raisons. Voilà, parce qu'il se passe ça, il se passe ça, vraiment, bon. Mais il y a un grand écart, on voit bien que la liturgie de Saint-Pie V, ça ne pourra pas devenir la liturgie de Paul VI, quoi. Il y a un moment où il faut venir enrichir la célébration de la messe de Paul VI en ajoutant les silences qui d'ailleurs sont prévus, en célébrant correctement, c'est la moindre des choses, en respectant les textes, c'est la moindre des choses, en étant habillé comme il faut, bref, en faisant ce qui est prévu. Et là, on s'aperçoit que, bah, effectivement, on a changé l'outre, mais le contenu est exactement le même. Mais si on avait voulu mettre le nouveau contenu dans l'ancien outre, ça aurait pété. Alors, nous n'en avons pas fait l'expérience, puisqu'il y a eu le Concile Vatican II. Mais au fond, vous voyez, les réformes, il y a un moment où il y a un saut, quoi. Et on fait ce saut ou on ne le fait pas. Et en fait, c'est la même chose avec le vêtement qui est évoqué. Il y a un moment où un vieux vêtement, ben voilà, quoi, il a fait son temps, c'est très bien, c'est super, et heureusement qu'il était là. Donc c'est le contenu qui compte, ce n'est pas le contenant. C'est ça qu'il faut retenir, vous voyez, l'esprit de Dieu, tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas d'où il vient. Et vouloir mettre la main dessus, c'est comme vouloir arrêter la mer avec la main, quoi. C'est juste pas possible. Donc voilà, la vie fait exploser la mort et l'emporte sur ce qui est ancien. Donc je pense que tout ça nous amène à la question, encore une fois, de la liberté. Est-ce que nous sommes libres ou est-ce que nous cherchons à contrôler les choses? Et là, on voit bien que je reviens à Isaac, il n'a pas trop contrôlé finalement, vous voyez. C'est intéressant parce que c'est une figure du père Isaac, donc le père de Jacob, hein. C'est une belle figure du père qui est un peu naïf. Est-ce qu'on peut vraiment être père sans être un peu naïf? Moi, j'y crois pas du tout. Il y a une part de naïveté dans le père qui sait bien, enfin, c'est pas de la naïveté d'ailleurs, c'est de la lucidité en fait. Il sait qu'il y a une histoire pas claire, mais il sait que ça le dépasse. Il sait que la vie dépasse la mort. Dieu sait qu'on est tordu. Alors il dit, bah oui, mais d'accord, bon, ok, il aurait pu faire autre chose, mais il n'a pas réussi. Il faut que je l'accompagne, quoi. Vous voyez, si vous avez des enfants handicapés, de quelconque manière que ce soit, eh ben, s'il n'arrive pas à marcher correctement ou à manger correctement, vous lui dites pas, t'es vraiment une andouille, quoi. Vous dites, bon, bah, il n'y arrive pas, on a essayé, peut-être qu'il aurait pu faire des efforts, mais je ne suis pas à sa place, et je vais lui montrer dans mon regard que c'est un vrai fils authentique, une vraie fille authentique. Et je crois que c'est ça qu'on découvre dans ces lectures, et c'est ce que Jésus veut nous faire découvrir dans l'Évangile, c'est qu'au fond, notre Père ne nous demande pas de suivre des rubriques, mais d'être cohérent et libre, mais libre de la vraie liberté de Dieu, libre de ne pas chercher à contrôler. Bon, voilà mon petit commentaire, hein. Il y aurait bien d'autres choses à dire et bien mieux, mais voilà ce que je pense le Saint-Esprit m'a donné ce matin. Je vais essayer moi-même d'en tirer profit.